bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Léna Kadobudeli.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Ouais.
Bonjour. Guillermo Ruiz.
Bah oui,
tout à l'heure en live, il y aura Synapson et notre invité Lilian Thurin. Bienvenue Lilian.
Bonjour.
Bienvenue à ce micro. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il vous fait?
Il est déjà blasé. Voilà.
Ça coupe le souffle, un tel accueil.
Mais il est fatigué déjà.
Tous super-héros, c'est le volume 2, si je ne m'abuse, d'une bande dessinée que vous étiez venu nous présenter avec Jean-Christophe Camus, Benjamin Chau. Vous portez des valeurs. Alors oui, c'est autour du football. Oui, il y a un ballon sur la couverture. Mais il y a beaucoup d'autres valeurs que celles du sport. Présenté dans cette BD, c'est celle notamment de l'accueil des migrants, d'ailleurs de la question de savoir est-ce qu'on doit dire réfugié ou migrant. D'ailleurs, la question est posée, la réponse n'est pas donnée dans la bande dessinée.
Effectivement, mais en fait, il y a les réfugiés, c'est-à-dire c'est une problématique de guerre ou de réfugiés climatiques. Donc, on essaie d'expliquer dans la bande.
Ça fonctionne. Non, ça fonctionne. De dire, certains partent parce qu'il y a la guerre chez eux, d'autres partent parce que il y a des drames climatiques, des ouragans, des inondations, des tremblements de terre. En fait, ce sont des questions que se posent les enfants à l'accueil de deux nouveaux arrivants au sein d'une école. Donc, ils posent des questions qui sont à la fois extrêmement trash, si c'était des questions posées par des adultes, mais qui sont extrêmement naturelles parce que ce sont des enfants. Les questions trash, c'est la couleur de la peau, c'est mais est-ce qu'ils parlent français, est-ce qu'ils savent écrire, pourquoi ils sont là, parce que il faisait très froid chez eux, il y a eu beaucoup d'eau, ils ont qu'à prendre des imperméables, des parapluies et des impairs, ils sont pas obligés de déménager quand il fait froid. Enfin, il y a des réactions très basiques de gamins, et puis il y a les parents qui collent des affiches partout avec chacun chez soi.
On est chez nous.
Un voilà, père en particulier.
Qui a le stock dans le garage, ouais. Qui lui est plutôt violent.
On est chez nous.
Ouais, le fameux on est chez nous. Non, c'est toute la découverte
pour des
et
raisons
la compréhension.
Pour des raisons économiques, c'est-à-dire qu'ils considèrent que ces personnes-là viennent abuser d'une situation et que et on l'entend dans les supporters lors du match en fin de bande dessinée, qui considèrent qu'en gros, eux, ils vivent avec pas grand-chose et ils galèrent, alors que ces hommes et ces femmes qui viennent d'ailleurs jouissent d'une meilleure vie, en gros. Voilà, c'est toujours
ce
problème économique.
Ce sont des discours qu'on entend malheureusement au niveau politique.
Alors justement, quelle a été la démarche de cette bande dessinée? C'est toutes les rencontres que vous faites. Vous avez dit il faut passer par le prisme de la bande dessinée pour que l'éducation soit plus efficace auprès des enfants.
Mais l'idée, c'est toujours donner à comprendre une situation aux enfants, parce que très souvent, on parle de réfugiés, de migrants, et très souvent, les enfants ne savent pas pourquoi il y a des migrants, pourquoi il y a des réfugiés. Et l'idée, c'est vraiment de donner à comprendre, d'expliquer qu'effectivement, il y a des pays riches, il y a des pays pauvres. Pourquoi il y a des pays riches, pourquoi il y a des pays pauvres? Et pourquoi, effectivement, il est important d'avoir une réflexion sur la solidarité? Parce que lorsqu'on parle de migration, des gens réfugiés, la vraie question, c'est est-ce que nous devons être solidaires ou pas entre nous? Et effectivement, essayer de dire aux enfants que peut-être que casser ces solidarités, c'est aussi casser les solidarités qui existent au sein de son propre pays. Et effectivement, est-ce qu'il faut pas réfléchir à mettre les choses en commun? Et donc, ça les concerne aussi.
Oui, l'exemple du partage du gâteau qui est fait par la maîtresse au tableau est assez criant. Avec elle fait dessiner un gâteau au tableau, elle dit on va le partager en deux, sauf qu'évidemment elle le partage d'une manière absolument pas équitable, genre une part 1/16 et les 15 autres 16e entre guillemets pour elle, en disant voilà, c'est comme ça que certaines personnes ou pays riches peuvent se comporter dans le partage, notamment des richesses naturelles aussi. Ça aussi c'est expliqué. C'est une la notion puisque ça s'appelle tous super-héros, la notion de si on mettait tous un masque et une cape, on serait encore plus égaux.
Non, c'est dire que chacun de nous On peut être un super-héros, et super-héros, c'est simplement défendre aussi des valeurs, comme l'égalité. Par exemple, lorsque j'en discutais avec les enfants, je leur disais, est-ce que vous êtes conscient que si tous les habitants de la Terre consommaient comme les Français, en fait, il faudrait trois terres. Mm-hmm. En fait, ils comprenaient pas, les enfants.
Et on est là depuis le mois de mai, c'est ça,
en dette, en déficit, en tout cas,
on a consommé tout ce qu'on pouvait consommer de la planète, et ça y est, on est dans le rouge là déjà.
Ouais, mais très souvent, on oublie qu'en fait, que la problématique vient des pays riches. Mmh. Et très souvent, par exemple,
et de la surconsommation. Ouais.
Ouais, d'ailleurs, il y a même des présidents qui, je ne veux pas dire de quel pays, mais qui vous disent qu'en fait, la surnatalité dans les pays pauvres, c'est ça le vrai problème.
Ouais.
Mais en fait, non. Le vrai problème, c'est la consommation des pays riches, parce que c'est eux qui créent problème. Et donc, essayer de changer le regard sur ces choses-là.
C'était quel président ?
Je m'en souviens pas. Mais c'est pas si important que ça. Mais c'est vrai que c'est très intéressant.
Ce qui est important, c'est que l'idée existe, en tout cas.
Ouais, l'idée existe qu'effectivement, les pauvres devraient arrêter de faire des enfants. Et notamment les pauvres des pays dits pauvres. Mais on se pose jamais la question à savoir, est-ce que les pays riches, nous ne consommons pas trop ? Et le vrai problème, c'est
effectivement ça. Non seulement la question se pose, mais il y a carrément des mouvements aux États-Unis de minimalisme qui arrivent en disant on n'a pas besoin d'avoir des tonnes de fringues, des tonnes de voitures, des maisons avec trop d'espace. Il y a un véritable mouvement de réduction de la consommation qui existe. Alors c'est un mouvement un peu bobo, mais il a le mérite d'exister en tout cas.
Mais c'est un vrai mouvement, mais je pense que les choses évoluent lorsqu'il y a des politiques d'État. Et donc, il faut questionner les politiques d'État avant tout.
Là, cette bande dessinée, vous, votre rôle est d'être co-scénariste, c'est ça ? C'est Benjamin Chaud qui dessine et c'est Jean-Christophe Camus qui, avec vous, trouve l'idée. Comment ça se passe ? Comment vous travaillez là-dessus ?
Ben, au départ, j'ai voulu dessiner.
À part pour la séquence match. On vous a dit, toi, tu vas colorier.
Ouais, t'as vu la réaction directement, j'ai voulu dessiner, on rit tout de suite. Donc, voilà. Bon, ça donne
c'est
le ton.
Il fallait voir, voilà quoi.
Très belle imitation de Guillaume.
Ah, non, j'ai senti ce qui se passait dans sa tête.
Tu prends des risques parce que je rappelle que son bras est à peu près aussi large que ta cuisse. Hein,
incontestable.
Non, mais je suis pas violent, donc il n'y a pas de problème. Non, en fait, l'idée, c'est vraiment de réfléchir ensemble à comment faire passer le message le plus intelligemment possible pour que les enfants se questionnent. Parce que l'idée, encore une fois, c'est pourquoi nous vivons dans cette société-là. Est-ce qu'on peut vivre autrement ? Est-ce que nous pouvons être beaucoup plus solidaires ?
Ouais, mais ce sont des valeurs qui peuvent exister, pardon, dans d'autres bandes dessinées, dans celle de Titeuf. Enfin, on le sait, Ezep est un militant justement et des droits de l'homme et pour handicap international, et il lutte contre les mines antipersonnelles et ainsi de suite. Le prisme de la bande dessinée existe déjà. Vous vous dites, on va créer des personnages pour faire passer des valeurs. C'est ça cette démarche.
Bah,
vous appuyez pas sur changer le scénario d'un Astérix, d'un Lucky Luke ou d'un Tintin. Non, mais on est d'accord. Vous partez d'une page vierge.
Oui, effectivement. Et je pense encore une fois, plus on multiplie ces discours, mieux c'est. Et je reste persuadé qu'effectivement, il faut expliquer aux enfants que chacun d'eux a un rôle à jouer dans la société. Parce que très souvent, il y a beaucoup de personnes en grandissant qui voudraient que les choses changent, mais ils ne se rendent pas compte qu'effectivement, ils ne font rien pour.
Quand vous allez voir les enfants, quel que soit leur âge, vous réentendez les discours que peuvent tenir les parents à la maison ?
Ben, complètement. Voilà pourquoi il faut justement peut-être les emmener à réfléchir différemment. Par exemple, la maîtresse questionne les enfants en leur disant, voilà, la terre appartient à qui ? Parce que c'est une vraie question. Mais dire aux enfants, voilà, vous savez, selon votre nationalité, vous pouvez vous déplacer beaucoup plus facilement sur cette terre. Mais les enfants, parfois, ils ne le savent pas. Et donc, dire aux enfants que la terre appartient à tous les êtres humains, c'est important. Ça paraît stupide, mais c'est super important. En disant, voilà, il n'y a pas que les riches qui ont le droit de se déplacer. Parce que, encore une fois, lorsqu'on parle de réfugiés climatiques ou de guerre, très souvent, on parle de personnes en difficulté et très souvent, on a un regard extrêmement négatif des personnes les plus démunies. Mmh. Mais peu importe le pays d'ailleurs, hein, parce que vous n'avez pas besoin d'être réfugié. Même dans notre pays, très souvent, les personnes les plus en difficulté sont stigmatisées comme s'ils n'avaient pas la capacité à raisonner.
Oui, et puis il y a tout le discours, encore aujourd'hui, je crois qu'il y a des camps qui ont été démontés ce matin. Sur la région parisienne. Et en même temps, ceux qui disent on ne peut pas recevoir toute la misère du monde, faut pas oublier que ça ne concerne pas justement le monde entier, mais ça correspond à à peine quelques milliers de personnes.
C'est quoi, 30 000 personnes, et encore, je crois qu'on voit large, mais c'est vrai qu'on entend Gérard Collomb, notre ministre de l'Intérieur, nous expliquer que les migrants font du benchmark, c'est-à-dire qu'ils étudient les pays dans lesquels ils peuvent venir se réfugier.
Faudrait créer un site internet,
je trouve ça hallucinant.
TripAdvisor.
Je trouve ça hallucinant d'entendre ça, c'est-à-dire comme
Immigrant Advisor, tu veux aller où? Coche. C'est ça.
Et d'ailleurs, on le voit dans la bande dessinée. Ce qui est intéressant dans cette BD, c'est que ces enfants, ces migrants, expliquent à leurs petits camarades pourquoi ils sont partis de chez eux. Et à chaque fois, dans le récit de cet enfant, on a un autre enfant de la classe qui, tout d'un coup, visualise sa propre maison être détruite, ses dernières affaires être volées et se retrouver dans le plus grand dénuement. Et quand on entend ce récit-là, j'ai du mal à supporter les déclarations de notre ministre de l'Intérieur.
Oui, parce que ça se traduit en une espèce de cauchemar, presque pour le père aussi, pour les parents, c'est-à-dire de se dire, en effet, si une bombe tombait sur notre propre maison...
On irait où ?
On ferait quoi ?
Et on irait où si nous, aujourd'hui, on devait se réfugier dans un pays, on irait dans quel pays ? Et dans quel pays on serait accepté, les bras grands ouverts, selon quoi notre statut social, la fonction qu'on exerçait ? Non mais voilà, c'est... Moi je trouve ça complètement fou de ne pas se préoccuper de là où on irait, si on avait des préoccupations, parce que finalement c'est pas de l'altruisme, c'est juste se dire et moi, dans l'histoire, qu'est-ce qui se passerait demain pour moi?
Se mettre à la place des autres en disant voilà, que feriez-vous si c'était vous, comment aimeriez-vous que l'on vous traite aussi. Le football arrive quand même présent. Il fallait qu'il y ait du foot, Lilian Thuram. Parce qu'il y a Lilian Thuram, il faut qu'il y ait du foot. Vous savez pas faire autre chose, franchement. Il y a que du foot. Il y a autre chose dans la vie.
Mais le foot, oui, tout d'abord, c'est très important. Pourquoi ? Parce que déjà, il y avait ces 20 ans de la victoire de 1998.
C'est quand ?
C'est quand quoi ?
C'est là, c'est cette année ?
Ouais, c'est
incroyable. Ça passe vite, ça fait 20 ans. Vous n'avez pas pris une ride, hein ?
Oh, un petit peu quand même.
Rien, il n'y a pas un cheveu blanc, rien du tout.
Un cheveu.
Quand même, vous boitez, hein. vous boitez pas mal. Hein.
Non, mais en fait...
Vous jouez encore ou pas ?
Ouais, un petit peu.
Semblait.
Très peu.
C'est vrai ?
Ouais, très, très peu.
Très peu, mais...
Ouais, très peu. Juste pour être en forme dans une semaine, parce qu'il y a un match. Le 12 juin, voilà.
Ouais, c'est un match de vétérans, quoi. C'est que des mecs de 45-50 ans qui ne savent plus courir.
Disons que... Non, mais non, il n'a pas tort. C'est pas... On va s'amuser, voilà.
Il y en a deux, trois qui sont très inquiets de cette rencontre.
Non, tout le monde est inquiet.
Bon, alors il y a deux trois qui m'ont dit qu'ils étaient inquiets. Mais déjà j'ai trouvé très mignon le côté on va ramener la mi-temps à 40 minutes et pas 45 minutes parce qu'on est plutôt jeune.
Comme il gratte.
C'est ça. Discrètement. Non mais ça va trottiner quand même, ça va pas être
Ouais, mais on va voir,
vous
on
allez
va
pas essayer. Faire mal.
Non, mais encore une fois, je pense que c'est passé un bon moment tous ensemble et en fait le foot c'est vraiment ça. C'est pour ça que dans la bande dessinée pour moi, c'était vraiment passé par le foot parce que on se rend pas compte. Mais très souvent, on oublie que nous sommes des êtres d'émotion. Et donc, il faut créer des liens. Et le foot, c'est un moyen extraordinaire pour créer des liens.
Alors, c'est un moyen extraordinaire pour le partage, pour que le gamin issu de l'immigration soit admiré en disant « Mais finalement, on était peut-être inquiet parce qu'on ne le connaissait pas, parce que la couleur de la peau, parce que sa religion, parce qu'on ne sait pas qui il est, il débarque chez nous, prendre le pain dans notre assiette, et ainsi de suite. » Et le gars joue tellement bien au ballon et il met des buts, donc on finit par l'admirer. Mais pardon, il se passerait quoi s'il était
parce que s'il savait pas jouer, c'est comme voilà. C'est
exactement.
Comme cette histoire
d'ailleurs,
de jeune homme qui escalade le quatrième étage. Ça veut dire quoi? Pour être français, faut être un héros. Et moi, je suis pas un héros et pourtant, je suis française. Donc, ça veut dire comment on fait, quoi.
Ah, mais c'est ça, c'est très, très bien. Parce qu'effectivement, dans le livre, il y a ce garçon qui joue très bien, mais il y a aussi quelqu'un qui joue très mal.
Oui.
Pour dire, attendez, on va pas accepter quelqu'un parce que justement, on peut profiter de ses qualités. Parce que c'est toujours ça, le piège, c'est-à-dire que, tu as sauvé quelqu'un, bon, tu mérites d'être français. C'est un piège.
Carrément.
Voilà.
C'est ce qui s'est passé pour Mamoudou Gassama.
Voilà, ce jeune garçon.
Vous dites, ouais, Alors, c'est un piège.
On est content pour lui, c'est pas le problème.
On est ravi pour lui, sauf qu'on a appris encore.
Ça, fait un bel éclairage sur un sport qui n'est pas beaucoup pratiqué. Il n'y a pas que foot.
Qui a un autre jeune homme tunisien qui a sauvé deux enfants
des flammes.
Et
ouais, lui, ça a été filmé ou pas?
Et lui, voilà, comme ça n'a pas été filmé, il risque d'être reconduit aux frontières. Ayem, si j'ai bonne mémoire pour le prénom du.
Non, mais moi, en tout cas, ce qui est extrêmement triste, c'est que si vous êtes un sans-papier et que vous sauvez un enfant, vous pouvez être acclamé étant comme un héros. Mm-hmm. Par contre, si vous êtes français...
Enfin, ça en soi, c'est pas triste. Ce qui est triste, c'est la comparaison.
Oui, mais ouais. Si vous êtes français et vous voulez venir en aide à des sans-papiers, vous pouvez risquer la prison quand même. Mm-hmm. Non, mais on vit dans une société actuellement qui est celle-là. Et donc, c'est ça qui est grave. Et ça n'a pas de sens, en fait. Je pense que effectivement, il faut apprendre aux gens et aux sociétés à être solidaires. Voilà.
Ça s'appelle Tous Super-Héros. C'est publié chez Delcourt. La coupe, non pas la coupe du monde, mais la coupe de tout le monde. Où le partage, les valeurs et l'écoute, la compréhension, finalement. Toujours pareil, on enfonce des portes ouvertes. Hein, mais c'est quand on connaît pas l'étranger, on en a peur. Et quand on apprend à le connaître, on sympathise, on partage et les choses se font beaucoup plus simplement. Et puis c'est une bonne bande dessinée parce qu'au-delà encore une fois du fond, la forme était extrêmement agréable à lire. J'espère, Père Albert, que vous avez bien compris la raison de la présence de Lilian Thuram aujourd'hui.
Coco Nangui, coco Lilian, coco les amis. Dans la mesure où Lilian Thuram est régulièrement invité dans cette émission, mon cher Nangui,
il est chez lui.
J'aurais pu vous refourguer à quelques mots près la réponse que je vous avais donnée lors de la précédente et récente visite de Lilian. Comme vous m'écoutez d'une oreille pour le moins distraite, voire indifférente.
Non, Nangui, mais poli.
Voilà, c'est ça. Hypocrite. Je gorge que vous ne vous seriez rendu compte de rien. Mais voyez-vous, à la différence de certains membres de cette bande supposée originale, qui sans vergogne avec un cynisme qui frôle l'escroquerie, n'hésite pas à recourir régulièrement aux mêmes ficelles humoristiques, aux mêmes procédés zygomatiques, eh bien moi, je refuse de m'abaisser à ce genre de fausse
idée. C'est bien, mon père.
Qui consisterait, par exemple, Nangui, à vous taquiner en répétant mot pour mot ce que vous avez dit juste avant l'émission à ce malheureux GNB, notre rédac chef, quand il vous a donné l'affiche avec toutes les questions à poser à l'invité. Quoi ? Encore Lilian Thuram ? À 10 jours du mondial, le seul joueur que t'es foutu de faire venir, c'est un vétéran, un retraité, un has-been du ballon rond. Mais oh mon bon maître, Lilian est une légende du football. Il reste recordman du monde des sélections en équipe de France. Légende Thuram, me fais pas marrer. Deux buts, deux pauvres buts sur 142 sélections. Non, tu parles d'un rendement.
Les seuls de sa vie quand même.
Oui, Lilian vient pour une BD ludique qui invite les enfants à devenir des défenseurs de l'égalité et de la solidarité. Oh, tu sais, Jinbi, c'est des mots que j'ai beaucoup de mal à comprendre et même à prononcer. Donc, je vais laisser le crachoir aller là. Elle saura trouver les mots, la vivre ensemblerie, la fraternitude, la militançade, les droits de l'hommage. C'est son truc. Voilà, cher Lilian, comment se prépare la bande originale. Pour info, dans ma camionnette, j'organise bientôt un stage vestiaire, savonnette et vivre ensemble. Et vous êtes évidemment invités. Et pour vous remercier, très, très rapidement, je laisse Albert Algou vous offrir un cadeau. Alors oui, Lilian, pour vous remercier pour votre engagement, un livre engagé et engageant. C'est Chacun de vous est concerné de Dominique Grange. C'est splendidement illustré par le grand Jacques Tardy. C'est chez Casterman. C'est un livre sur les rébellions passées, présentées à venir. Ça commence en 68 et ça passe par les combats féministes, écologistes et aussi la souffrance animale. C'est un très très beau livre chez Casterman. C'est même un événement et il y a un disque avec les chansons de Dominique Grange chez Casterman.
Voilà. Merci Albert.
La bande originale, Lady.
Leïla Kadouboulady, vos oreilles ont sifflé quand on vous a dit que Lilian venait dans l'émission.
Oui, et quand je pense à vous Lilian, je pense aux héros de 98, à votre BD aussi, Tous héros, et je pense à un livre qui vient de sortir, vous allez partir les bras chargés, c'est Héros oubliés de la Coupe du Monde. On parle de héros, ça tombe bien, c'est SoFoot qui édite ça dans l'édition Contre-Histoire, Grands absents, destin maudit et amour d'été, parce qu'on parle toujours des mecs qui réussissent et on pense toujours aux grandes stars, mais on oublie par exemple, et c'est un petit catalogue de tout cela, d'un portrait par exemple du Pelé russe Edward Streltson envoyé au goulag avant la Coupe du Monde de 58, il y a des mecs comme ça qui ont loupé l'histoire, qui sont retrouvés...
Il a loupé une Coupe du Monde surtout.
Le goulag. Le goulag. Le sélectionneur de Norvège aussi, qui a construit l'équipe, selon l'auteur, la plus ennuyeuse de l'histoire, la plus chiante du monde. Donc c'est des petites histoires de triche aussi, parfois de destin brisé par l'histoire, par la politique, par des moments un petit peu compliqués dans une carrière. Et c'est recensé dans ce bouquin. Et je me suis dit que ça ne pouvait aller qu'à un véritable héros qui a été retenu par l'histoire.
Elle va être compliquée, cette Coupe du Monde, parce qu'elle est en Russie ?
Pour qui ?
Pour des actes, non, mais pour des actes racistes, on sait que malheureusement Ousmane Dembélé a été conspué lors du dernier Russie-France, avec toujours les cris de singe et des insultes racistes pendant le match. Et vous êtes même interrogé en disant qu'est-ce qui se passe si pendant la Coupe du Monde, pendant un match de la Coupe du Monde, des actes racistes comme ça descendent des gradins. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe d'ailleurs ? Parce qu'un arbitre peut pas arrêter un match, parce que. Non mais qu'est-ce qui se passe ?
Bah, il faudrait que l'arbitre puisse.
Oui, mais comment on peut savoir au milieu de 80, 100 000 personnes, c'est pas une tribune entière qui se met à crier, à hurler, ouais. Ou même à proférer des insultes nazies. Qu'est-ce que vous voulez faire ?
Moi, je pense que la meilleure solution, c'est qu'on puisse arrêter le match. Et c'est ce qui manque, en fait. C'est-à-dire que l'UEFA...
Et de dire qu'on vide la tribune dehors ?
Non, non. On arrête et un moment de réflexion. Et que peut-être que si on sait qu'à chaque fois le match peut être arrêté, eh ben, les clubs, les fédérations prendront des dispositions. C'est ce qui manque, d'ailleurs. C'est-à-dire que...
Il n'y a aucun article de loi dans la FIFA qui dise, en cas d'insulte raciste ou d'acte raciste dans l'enceinte d'un stade, il peut se passer ça. Est-ce qu'il y a une loi ?
Oui, bien sûr.
Qui dit quoi ?
Par exemple, que les arbitres doivent arrêter le match. Mais très souvent,
c'est
dans
le règlement.
Bien sûr, on voit que les joueurs parfois qui sont discriminés, qui sont violentés, parfois vont vers l'arbitre. Mm-hmm. Mais très souvent, l'arbitre
leur file un carton à eux.
Ouais, voilà.
Non.
Ça arrive, bien sûr. Nagui.
De quoi ?
Qu'est-ce qui se passe ?
Non,
vrai, ça se passe.
Non, c'est-à-dire que qu'un arbitre mette un carton à un joueur, oui.
Mais
qu'un joueur se fasse insulter et que le joueur aille en parler à l'arbitre.
Mais ça c'est déjà. Oui, ça c'est
et
déjà passé.
Et lui se prend un carton.
Bien sûr.
Ça vous est arrivé
d'accord.
À vous ?
Non, pas à moi, mais ça arrive, oui, effectivement, parce qu'en fait c'est très compliqué.
Je fais pas le naïf.
C'est très compliqué.
On n'est pas sur le terrain, quoi. On n'est pas sur le terrain.
On
n'entend
pas. Moi, si on voit un joueur se parler à un arbitre et prendre un carton, on se dit il a mal parlé, il a employé.
C'est déjà arrivé parce qu'encore une fois, ce qui est dramatique dans cette histoire, c'est que le football, c'est un business, d'accord ? Et donc, il faut pas arrêter ce business. Et donc, c'est ce qui est grave, c'est que...
Vous voulez dire que d'arrêter un match, ça va coûter de l'argent aux annonceurs, aux chaînes de télé ?
Ah mais non, mais bien sûr. On ne sait pas, ça va déclencher. Imaginons que pendant la Coupe du Monde, il y a un match qui s'arrête. Mais ça crée un vrai problème. Est-ce que vous rejouez ?
Quand on le diffuse ?
Comment on le diffuse ? Non, mais c'est très compliqué. Et je pense qu'il faut avoir le courage d'arrêter un match. Et là, à partir du moment où on va avoir ce courage-là, je pense qu'on va passer à autre chose.
Est-ce que vous êtes, de par votre stature mondiale, est-ce que vous êtes allé voir des responsables de la FIFA ? Est-ce que vous en avez parlé ? Est-ce qu'il y a un collectif de joueurs contre le racisme ? Parce qu'on voit bien que la FIFA communique avec les mots « respect », avec des spots même contre le « dites non au racisme ». Comment aller plus loin que cette communication qui est déjà un premier pas ?
C'est une très bonne chose.
Voilà. Mais comment aller plus loin ?
Mais aller plus loin, c'est très simple, c'est qu'on puisse arrêter un match.
Est-ce que des joueurs sont allés voir les dirigeants de la FIFA en leur disant...
Je pense qu'il y a beaucoup de personnes quand même qui tiennent un discours assez fort pour justement arriver à cela.
Vous reprochez à Pelé, par exemple, de ne pas avoir tenu un discours assez fort ?
Ah ben complètement, c'est-à-dire que Pelé aurait pu faire avancer les choses en 100 ans, et effectivement, il n'a jamais dit un mot justement contre le racisme.
Pourquoi d'après vous ?
Ben, c'est assez simple. Je pense que lorsque vous parlez du racisme, vous ne faites plus l'unanimité.
Mmh. Donc, vous l'êtes lisse et être accepté par tous, quoi.
Ben oui, complètement. Je pense que c'est plus facile.
S'engager, c'est clivant.
Au Brésil, il y a moins de problèmes de... Ah, ça y est, j'ai encore dit une bêtise. J'ai l'impression qu'au Brésil, il y a moins de problèmes de racisme que dans d'autres pays.
En tout cas, c'est drôle, Nagui.
Tout le public est mort de rire.
Allez, une autre, Nagui, une autre blague.
Fais le poirier. Pour vous, c'est pas la réussite du métissage, le Brésil.
Ah non, mais attendez, le Brésil est un pays super raciste. Il suffit de regarder le niveau politique. C'est-à-dire que quand vous allez au Brésil, vous voyez très bien le racisme. En fait, si vous voulez, ce qui est très intéressant dans le racisme, c'est les mythes qu'on peut construire. Effectivement, le mythe brésilien, c'est qu'il n'y a pas de racisme, que tout le monde est métissé. Mais c'est pas la réalité, c'est-à-dire que enfin, les personnes
pardon,
dans les
au pouvoir, ce sont pas des blancs colons qui
colons, mais la grande majorité, bien sûr. Mais c'est comme si vous me disiez, est-ce qu'au Brésil il y a du sexisme?
Je sais que le string est interdit sur les plages.
Non, mais les
franchement chez toi c'est autorisé.
Ouais, les personnes dans les favelas n'ont pas la même couleur que certaines personnes dans les beaux quartiers.
C'est vrai.
Non, c'est la réalité.
Je parlais des gouvernements, je parlais des décideurs, je parle même au sein de l'équipe du Brésil. Enfin, je veux dire, c'est Zico qui était un joueur blanc, on l'appelait le Pelé blanc, tellement il était étonnant d'avoir un joueur blanc.
Mais l'histoire de l'équipe du Brésil, c'est aussi des joueurs noirs qui sont obligés de se mettre de la poudre de riz sur le visage pour paraître moins noir. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que
ça, je vous reconnais de n'avoir jamais entendu ça.
Oui, mais la réalité du Brésil, c'est que effectivement, plus vous êtes foncé, plus vous êtes pauvre dans ce pays-là, plus vous êtes stigmatisé. Non, le Brésil, c'est un pays qui s'est construit sur l'esclavage, donc c'est tout à fait compréhensible qu'il y ait du racisme. Après que le Brésil affronte sa propre histoire, c'est différent. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un mythe sur cette idée que tout le monde serait métissé, qu'il n'y aurait pas de racisme. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps qu'au Brésil, on questionne l'histoire du Brésil, on questionne l'histoire selon la couleur de peau des gens. Non, au Brésil, c'est le racisme.
Donc extrêmement... Pelé aurait pu être un formidable ambassadeur contre le racisme.
Il l'aurait dû, parce qu'effectivement, c'était un joueur... j'allais dire un joueur phare, mais c'était même pas ça. C'était un dieu au Brésil.
Clairement.
Et partout
même
dans le monde.
Sur la planète, ouais,
exactement.
Ça. Ouais.
Donc ça veut dire que lui n'a jamais tenu ce discours. Lorsque vous regardez, par exemple, un basketteur actuellement, LeBron James, eh ben, lui, il tient un vrai discours pour questionner l'inconscient collectif de tout le monde.
Et quel a été le premier athlète français, d'après vous, qui a questionné aussi notre inconscient collectif? Parce qu'en matière d'esclavage, on est quand même hyper bien placé.
Ben, le premier athlète, je ne sais pas, mais...
Vous ?
Non, je ne pense pas être le premier, non. Non, je pense qu'il y a eu des athlètes, mais je ne pourrais pas vous dire le nom, là, exactement. Ouais.
Non, mais ça pose question aussi de ne pas pouvoir sortir un nom en France.
Il y a Candeloro qui a fait... qui a fait beaucoup pour la cause.
Ok, je pense que là, on est arrivé au point de non-retour de la discussion.
Voilà. Bien, Casablanca, vous avez été très actif.
Mais ça veut dire quelque chose dans la façon dont on s'approprie notre histoire. Je veux dire, là, il y a la création de la fondation contre l'esclavage qui est présidée par Jean-Marc Ayrault, mais c'est quand même hyper récent par rapport à ce travail de mémoire qui n'a pas été fait en France.
Mais en fait, vous savez, je crois que le racisme perdure dans nos sociétés parce qu'effectivement, il y a des mythes qui n'ont pas du tout de sens, en fait. Il y a des histoires racontées qui sont complètement fausses. Et c'est vrai que je pense que affronter son histoire, c'est vraiment un vrai cadeau pour une société, parce qu'on peut avancer, en fait. C'est comme une personne, lorsque vous vous questionnez sur votre propre histoire, eh ben, se projeter dans l'avenir est beaucoup plus facile.
On va reparler du racisme et du football. Il y a tout cela, d'ailleurs, dans cette bande dessinée, tous super-héros, chez Delcourt, avec vous, Lilian Thuram. Souvenez-vous de cette chanson All In You. Oh my God, got to run the table quick, judge your best game, don't quit, open up your eyes and see that all is to be made. Oh my God, got to run the table. Synapson, j'ai toujours la fâcheuse tendance d'appeler Synapson, mais c'est Synapson, et ils reviennent avec un nouvel album. And I believe that I'm stuck on your rhythm. Can't you see, can't you see just what you do? Le son de Synapson est dans la bande originale avec Hideaway. Ce titre est avec Tessaby en lead vocal. C'est parti. Oh,
with yours. My lungs breathe with yours. You're a piece of me. I can't hide away.
Oh, I'm under your spell. I'm aching and I'm fading. And no body can see. I'm your heartbeat. You're a part of me. Can't believe in all this time I'm hurting for you. What you feel like on the moon. Love, give it if so high. I'm dying for it. I'm dying for it. And I can't let you go. Hide away.
Parce que j'ai dit Tessa B et il faut dire Tessa B. En fait, on va faire quoi? C'est un groupe français. Synapson. Voilà, on va le préciser. Synapson avec Tessa B. Voilà, comme ça, c'est simple. Et donc, ça s'appelait Id Va, Id V, puisque c'est, puisqu'il faut prononcer à la française.
Isoito.
Qui vient? Venez les garçons, puisque Tessa, on m'a fait signe que j'avais pas le droit de te parler parce que t'étais trop, trop jolie et voilà, et que je ne parle pas anglais. Comme ça, c'est simple. Enfin, on va l'appeler Marine, hein, de son vrai prénom. Ouais, voilà, comme ça, ça fera encore plus français. Au revoir, Marine, merci.
Bonjour.
À bientôt.
Ah non, mais vraiment, vous l'avez viré, Nagui.
Bah oui.
Vraiment.
Elle veut vraiment pas te parler.
Bah non, elle veut pas me parler. Elle a des consignes, elle dit surtout ne pas lui parler.
Ouais.
Alexandre et Paul, vous vous êtes rencontrés quand et comment? Vous avez l'habitude de la radio, hein, vous avez animé Boxon. Lequel des deux a animé Boxon?
Ouais, moi.
C'est toi.
Ouais. Voilà. Il y a longtemps, mais.
Bah, peu importe, hein, faut assumer.
J'avais moins d'audience aussi, mais.
Oh, pff, on n'a pas encore celle d'aujourd'hui, hein, tu sais juste comment
c'est pas gagné, hein.
Non, alors rappelez-nous comment vous êtes rencontrés tous les deux.
On s'est rencontrés donc à Biarritz dans le sud-ouest. Il y a
c'est bon, ça va, c'est France Inter, on sait où c'est Biarritz.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Non,
il y a une
vingtaine. C'était pas sur Énergie.
C'était en 2009.
On passe pas sur Énergie. Malheureusement. Il y a une vingtaine d'années, ouais.
Ah bon?
Plus de 20 ans maintenant.
Ouais.
Ah, la rencontre, pardon, moi
oui,
je pensais...
Quand
ah,
mon nom s'est connu.
Ok, et après il y a eu la naissance du groupe en 2009.
Il y a 9 ans, exactement.
C'est ça, il y a 9 ans, avec un premier album. Alors le point commun de tous ces albums, c'est la qualité du son, le travail. Vous qualifiez d'ailleurs évidemment de musicien, parce que voilà, pour quand même le préciser, au-delà des machines derrière lesquelles vous êtes, vous savez jouer des instruments, c'est pas le cas de tous ceux qui sont derrière des machines. Elles apportent quoi, ces machines?
Un côté organique, il y a le plaisir d'entendre l'erreur aussi, c'est-à-dire que bah ouais c'est enfin, là d'ailleurs j'en ai fait une tout à l'heure mais
ah ouais. et une belle
ça m'a choqué
d'ailleurs. On appelle ça un pain,
j'ai rien dit mais franchement
est-ce qu'on appelle ça un pain comme avec une
on appelle ça un pain, on le vit mal sur le moment mais je trouve que c'est ce qui donne c'est ce qui humanise en fait le tout,
c'était très
fait.
Humain comme quoi
ouais. Mais j'en ai d'autres hein. Can't you see? Can't you see just what
say
you
do? Like it's all that you need. Systématiquement, on fait appel à des voix, à des invités pour oui. Chanter parce que vous avez essayé avec vos voix. L'un des deux chante ou pas?
Alors moi, j'ai essayé sur qui est le dernier morceau de l'album précédent et donc ça fait 13 morceaux et tout le monde pense qu'il y en a 12. Pour vous dire à quel point il a bien marché.
C'est vraiment c'est comme Lilian et le dessin en fait.
Voilà, vraiment c'est compliqué. Et là, sur le nouvel album, on s'était dit moins de collaborations et finalement une collaboration par morceau. Donc
voilà, c'est voilà. Simple. Alexandre, vous jouez quel instrument en fait?
Piano, percu,
sax.
Et un peu de sax.
Un peu de saxophone.
Un peu,
et la voix, donc plus jamais, on l'a dit, plus jamais ça.
On essayera peut-être. D'accord.
Et vous, Paul, c'est batterie, production,
ouais,
mix.
Exactement. Voilà.
Vous êtes toujours d'accord sur le son, les réglages, parce qu'on a l'impression que c'est très chirurgical comme réglage. Ok, oui. Donc
ils sont pas d'accord.
Non, mais
c'est l'unanimité qui prévaut. Donc voilà, en fait, même sur la composition, parfois j'envoie une démo, il me dit non, ça j'aime pas du tout, donc on passe à autre chose. Voilà.
Et tout part d'abord quoi, d'un tempo, d'un son, d'une ambiance.
Ça, on bosse pas de la même façon, donc moi je pars souvent d'une mélodie que je chantonne dans mon téléphone, qui ressemble pas à grand chose, mais au moins j'ai des repères.
On vous a déjà dit que vous chantiez mal. Hein,
voilà, c'est ça. Non, mais je confirme, c'est vraiment pas un succès à ce niveau-là. Et Paul, je sais pas, d'une manière.
Moi je pars toujours de la batterie en général, j'ai besoin d'avoir un. Comme je suis moins bon musicien et moins bon pianiste qu'Alex.
Le BPM,
ouais, c'est vrai, exactement.
Celui-ci est avec Tessa B.
Alors c'est Tessa B, là.
Exactement, là. Exactement.
Elle est bien cette machine aussi.
Ouais. Et Beat Assaillant est là, sur Nighttime.
Exactement.
Comment se passent ces rencontres? Parce qu'on a Marine était déjà là sur le précédent album.
Oui.
Elle est venue sur les lives aussi. Mmh. Là, comment ça se passe vos choix? Vous faites des castings? Ce sont que des potes que vous retrouvez? Beat Assaillant, comment ça s'est passé?
Ah bah Beat Assaillant.
Ou je dois prononcer Beat Assaillant.
Non, Beat Assaillant. En plus, c'est bien que vous posiez la question parce que c'est grâce à vous en fait qu'on l'a rencontré, parce que on.
C'était pas pour ça que je posais la question.
Ouais, mais.
On te connaît.
C'est pas grave,
c'est un filou. Rappelez-nous cette anecdote encore.
Je l'ai dit quand même.
Oui, non, c'est en fait. J'ai permis le rapprochement.
Laissez-le parler, dire du bien deux secondes un peu.
On devait faire taratata et il fallait quelque chose en plus que sur le morceau.
T'as donné une enveloppe à Nagui.
Il n'y arrivera jamais. Courage, lâche rien. Allez, vas-y, reprends le micro.
Je vais essayer de parler très vite comme ça. Non, donc en fait, voilà, on était programmé sur taratata, on voulait apporter quelque chose en plus sur le morceau. Original sur l'album, et on a fait appel à Beat Assaillant qui a accepté l'invitation, et donc voilà, c'est comme ça que.
Et vous avez même fait une reprise de Going Back to My Roots qui est après devenu aussi un.
Alors, ça, ouais, mais c'est vrai que bah, ça aussi, c'est sur la réédition de l'album Convergence.
Deuxième
et
chèque.
C'est extrait.
L'opération est pas et j'ai pas touché un centime.
Tu t'en fous, tu produis la musique.
Ah, ouais, merci, Nagui.
Comment vous qualifieriez votre musique? Elle est faite pour danser. C'est une musique qui est totalement dans l'air du temps. Vous mettez dans la lignée des producteurs Guetta, Avicii.
Un journaliste un jour a parlé de nous en termes de notre musique comme électronique. En fait, le fil rouge c'est la production de musique électronique. Même si on en avait parlé l'autre fois, aujourd'hui toute la musique est pseudo-électronique, ouais, on va dire. Et après, on a des influences multiples et variées, et on écoute même en perso pas forcément de la musique électronique. Donc après, nous, on s'interdit rien, et en fait, c'est ça qui fait notre marque de fabrique. Voilà, ça c'est un blues, par exemple. Ouais.
Ça c'est top. Hein.
Ça c'est une voix. On va essayer de le faire venir justement. On va essayer de le faire venir à notre prochaine date parisienne. C'est lui pour le coup. Moi, je l'ai découvert sur une plateforme de stream vidéo et j'ai cherché à le contacter. Casé.
Tout en français même.
Alors, KC Abrams.
Yeah, you got it.
Quel Texas.
Il y a aussi All the Way Down. Et puis il y a un titre en français avec Tim Dup. J'adore ce mec en plus.
Ce qu'on veut, c'est des levées de soleil, couleur jus de fraise au fond d'une assiette blanche, des couches et de lune et des jolies paires de fesses qui se déhanchent. C'est se draper dans le bleu, le mauve.
C'est la première fois.
C'est la première fois et la rencontre s'est créée aussi chez France Inter.
Ouais. C'est
grâce à Didier
Varro. Et là, pas de chèque, rien. Vous êtes en concert le 23 juin prochain à Langlade, le 30 juin à Évreux, le 1er juillet à Marmande, le 6 juillet au Festival Paris Fnac Live, le 7 juillet à Fouesnant, le 27 juillet à Civray, le 3 août à Langres, le 12 août à Cannes, le 3 octobre à Toulouse, à l'Olympia, ça sera à la rentrée le 6 octobre à Paris, le 12 octobre à Strasbourg, le 24 octobre à Lyon, le 24 novembre à Nancy. L'album ne sortira que dans 15 jours, c'est ça?
On a préparé de le défendre sur scène sans qu'il soit sorti.
Ouais, c'est osé. Vous aimez bien tout ce qui est carré, rectangulaire. c'est ce qu'on retrouve régulièrement.
C'est mon petit côté psychorigide.
C'est vrai?
Ouais.
Non, ouais, j'aimerais qu'on essaie.
Complètement psychorigide. C'est bien idiot, ça.
Non, ouais, c'est vrai que. Là, c'est un peu moins géométrique que sur le précédent, quand même. Non,
ah, quand même. Si on regarde bien, il y a pas mal de lignes sur
la. La prochaine fois, si vous pouvez coller votre étiquette un peu plus droite.
Ça... Avec la voix donc de Marine Tessa B, mais que certains beaufs appellent Tessa B, vous revenez tout à l'heure pour une reprise de Creep de Radiohead, avec un vrai piano et des vrais doigts qui vont jouer dessus aussi. Et puis ensuite, on aura un nouvel extrait de l'album avec Lass qui va venir interpréter lui son titre sur Souba. Merci beaucoup, Synapson.
Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup.
France Inter, Maudy, la bande originale.
Allez, continuez d'applaudir maintenant. Guillermo.
Ah oui, oui,
voilà.
Bonjour les amis.
Salut Ernesto.
Ah, vous savez comment je sais que je suis vieux? Tu regardes la télé? Non. Tu utilises l'expression vaille que vaille? Tu veux dire sonnement fort? Non. Eh bien, non, bien essayé, bande de flics ratés. Non, je sais que je suis vieux parce que la saison des festivals démarre. Et que je m'en branle avec une méticulosité. C'est vrai, je m'en branle avec la main d'un autre, quoi. Vraiment, je m'en branle sans dentifrice. À la peau. C'est homérique comment je m'en branle. Alors qu'avant, les festivals, c'était vraiment une de mes grosses passions. Ça et les pubs pour la marque Kinder, c'était vraiment mes deux passions. Vous vous rappelez les pubs Kinder qui faisaient la promotion de la famille traditionnelle arienne? Pas vrai, Maréchal, vous vous rappelez ça?
Ah, affirmatif.
Ah ouais, on était bien à l'époque. Non, mais c'est bon, aujourd'hui, ça me laisse complètement indifférent, 100% les festivals. J'adore cette citation de Nagui, d'ailleurs, qui parlait de son expérience dans Taratata en disant voilà, j'en peux plus et ça me gonfle de rester avec des heures debout entouré de gens hystériques et mal savonnés à écouter de la musique de scout, etc. Et c'est exactement ce que je ressens avec les festivals. Une fois de plus, patron, vous avez vraiment trouvé les mots, quoi. Si vous pouviez juste trouver les sous maintenant pour nous rémunérer, c'est vraiment bien. Mais c'est vrai que je suis vieux. Il y avait Will of Green ce week-end, vous en avez parlé, je pense, vendredi avec Eric Tabarly et Yvan
Bourgnon.
Oui, enfin, je sais bien, il y avait un marin. Et voilà. Franchement, moi j'adore Beck, Migos et Charlotte Gainsbourg, etc. Mais aujourd'hui, je préférais tellement qu'ils viennent chanter ici dans le studio comme Synapson avec Charlotte Gainsbourg qui me ferait un petit single de dire je te connais pas Ernesto mais je vois que vu que ta position dans le studio tu dois être un mec plus important que le public. Non, vraiment, c'est un truc tout simple. Je ferai une story Insta comme ça, hashtag esprit inter, hashtag inter, hashtag terre, hashtag air, hashtag. Enfin, je serais vraiment deux chansons, trois max que je pourrais écouter peinard ici sur ma chaise, vraiment à sentir planer le souffle chaud et âcre et faisandé de Daniel Morin, vraiment l'homme qui a inventé le concept d'haleine médico-légale. Vraiment, mais c'est plus pour moi la musique en meute et la pilosité bio. J'ai perdu l'innocence. Le seul festival vraiment où j'avais vraiment envie d'aller ce week-end, c'était à Bruxelles où se tenait, je vous promets, le festival belge du whisky, du rhum. Je vous promets, à Bruxelles, il y avait un festival juste avec de l'alcool. Ils se sont dit, qu'est-ce qui fait chier dans le festival de musique? La musique. Voilà, bingo. Bah ouais. Et ils ont fait, je cite, 1300 mètres carrés pour célébrer l'alcool sous toutes ses formes.
C'est beau.
Avec notamment présentation de produits en lien direct avec l'alcool, notamment les cigares, le chocolat, les tests de grossesse, etc. Et je vais pas faire l'hypocrite. Dans cette émission, s'il y a bien quelqu'un qui fait en permanence l'apologie de l'alcool, c'est bien Leïla. Mais bon, Leïla, le jour où Laurent Delahousse aura enfin quitté le JT pour ouvrir un musée consacré à Laurent Delahousse, elle sera plus obligée de s'évader. Elle sera plus obligée de s'évader dans le whisky, rhum, le gin, la vodka, la tequila, le calvados, l'armagnac, le curaçao, le pisco, la mezcal, le saké.
Tout ça avec modération, bien sûr.
Vous savez comment je sais que j'ai un problème avec l'alcool? C'est qu'arrivé à Calvados, j'avais déjà une similiturgescence. Vraiment, c'est un truc. Et un saké, j'avais la buée dans les yeux. Vraiment, non, le temps passe. Et je me rappelle l'époque où j'allais encore dans les grands festivals, genre écouter Radiohead, etc. 80 000 personnes, 900 suicides, à peine 700 réussis. C'était vraiment le bon temps. C'était le bon temps. J'ai vu une TM en festival. Vraiment, je me rappellerai toute ma vie, Joe Star, qui fait comment, ce qui fait pas à côté, chemise ouverte, chaîne. Les gens devenaient dingues.
Non, c'est pas lui, ça.
Aujourd'hui, c'est fini, quoi. Dans 10 ans, quand je parlerai de mes souvenirs de festival avec mes aides-soignants, ben, je leur dirai, voilà, j'ai encore eu, moi, le limoncello, je l'ai vu au festival du whisky, à l'époque où c'était pas la star des alcools, il était 11h du matin, devant un tout petit sting, on était trois fans hardcore, comme ça, il y avait la patronne de France Télévisions, qui était encore ma collègue, à l'époque, dans la bande originale. En attendant, allez, bonne émission, les amis.
Merci, Guillermo.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
La bande originale avec Lilian Thuram, qui est notre invité, qui nous présente avec Jean-Christophe Camus et Benjamin Chaud, tous super-héros, la coupe de tout le monde pour un partage et pour une compréhension des uns et des autres. Cette bande dessinée est publiée chez Delcourt. On va évoquer les années, ce que vous écoutez d'ailleurs comme musique, par exemple dans les années 94, vous écoutiez Lilian Thuram, Public Enemy. C'est le genre de musique qu'on écoute avant d'entrer sur un terrain, ça?
Non, en fait, c'est lorsque j'étais au centre de formation et dans ma chambre, il y avait la photo de Public Enemy. Et ça m'inspirait.
C'est hyper militant, Public Enemy. Ça forge quand même un mental, Public Enemy.
Ça explique qui je suis aujourd'hui, peut-être.
Ouais. C'est un esprit combatif, revendicatif aussi, au bon sens du terme, quoi.
Ouais, complètement. Ça veut dire questionner le pouvoir, toujours.
Et donc en 94, première sélection chez les Bleus, on l'a évoqué, c'était en le 17 août 1994, c'est le genre de date dont vous vous souvenez? Ou pas?
Non, je me souvenais pas de la date exactement, mais je me souviens du match.
Contre la République tchèque.
Exactement, je me souviens que Zizou avait marqué 2 buts lors de sa première sélection, parce qu'on a fait la première sélection ensemble. Et je me disais que j'espère que j'allais y retourner, parce qu'en fait c'est vrai que la première sélection c'est toujours beaucoup de pression en fait. Ouais. Et c'est tellement beau qu'on se dit qu'après il faut travailler pour avoir la chance.
Première sélection sur 142 au total.
Exact, ouais.
Vous êtes le plus capé?
Ouais, chez les garçons, oui, c'est moi.
Et celui qui... Il y en a un qui peut vous dépasser là ou pas?
Ah, aucune idée, ça je sais pas.
C'est un record qui vous intéresse moyennement en fait, d'être le plus capé.
Si. Non, ouais,
ou
mais
c'est
en fait...
symbolique.
Non, mais sincèrement... Si quelqu'un demain fait 143, ça va pas changer grand chose dans ma vie.
Vous pouvez comprendre qu'un joueur n'accepte pas d'être réserviste?
Ben, tout d'abord, je peux comprendre qu'on n'aime pas être remplaçant, qu'on n'aime pas être réserviste, mais ça fait partie du métier aussi.
Vous devenez titulaire 2 ans après, en 96. Vous avez attendu 2 ans, en gros, pour être sur la feuille de match systématiquement dès le départ, en tout cas. Qu'est-ce qui fait qu'on supporte ou pas d'être sur le banc? C'est dû à quoi?
Le confort du banc.
on voit vachement mieux le match.
Si y a un petit coussin, t'acceptes.
Et maintenant, ils ont des sièges. Ils ont tous des sièges récaro.
Ils sont tous. Elle était 16-9e devant et tout ça. La salle,
c'est
stylé.
Franchement,
c'est chauffé. Tu peux venir avec les copains? Non, mais ça peut être sympa. T'as un beau maillot.
Mais ça fait partie du jeu.
Non, mais ça fait partie du jeu. Donc, de ne pas accepter d'être réserviste, c'est-à-dire de refuser le maillot bleu.
C'est pas le fait de refuser.
Bah, c'est ce qu'il a fait,
oui.
Rabiot.
Non, mais la question, c'était est-ce que on accepte? Non, on n'accepte pas. Parce que c'est ce qui fait qu'on progresse.
Alors, refuser d'être.
Ah oui, c'est pas la même chose.
Dans l'équipe. Alors, refuser dans l'équipe.
Ah ben oui, non, mais c'est juste incroyable. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens en fait. Lorsque vous êtes professionnel, lorsque vous êtes jeune joueur, vous commencez de toute façon sur le banc. Parfois, vous êtes en tribune.
Oui, mais c'est pas la même chose d'être sur le banc en équipe de France et sur le banc dans un club. On peut aussi imaginer que c'est pas complètement son rêve de faire partie de l'équipe de France. C'est comme si on vous propose demain.
Il a pas mis ça comme ça. Il a mis ça sur le côté sportif. Je vaux mieux que ceux qui ont été pris à ma place.
Ouais, mais c'est. Je pense que tout d'abord, c'est aussi un manque de respect vis-à-vis de ce qu'équipe en équipe de France. Ce qui aurait été intéressant, c'est qu'ils puissent donner des noms en disant voilà, je suis meilleur qu'eux, donc il fallait que ce soit moi.
Impossible ça.
Ben voilà. Non, mais je pense que ça n'a pas de sens.
Il vaut mieux pas faire partie de l'équipe si c'est pour arriver dans ce mental-là. Parce que accepter pour être sur le banc de touche et se dire de toute façon, je suis meilleur que la moitié des mecs qui sont sur le terrain, vaut mieux pas accepter finalement. C'est pas plus sain.
Non, moi je pense que ce qui serait sain, c'est accepter les décisions de l'entraîneur. Ouais. Ça fait partie du job en fait. C'est d'être professionnel.
1998, vous écoutez Miles Davis. So what? Et alors?
Ouais, 98, forcément, on va parler de ses buts pour l'éternité. Le 8 juillet 98, ça aussi c'est des dates dont vous devez vous souvenir, lors de la demi-finale de Coupe du Monde. Vous inscrivez 2 buts contre la Croatie, 2-1, et les seuls buts en équipe de France, oui j'entendais du bruit.
Je sais pas, mais on a carrément une autre, ou alors c'est un autre studio qui est à l'antenne.
Ouais. En fait c'est vos 2 seuls buts en équipe de France, Lilian Thuram, mais vous les mettez pile à ce moment-là.
Mais c'est vrai que c'est assez incroyable. C'est
pas. Un du droit, un du gauche.
C'est fou.
Ouais c'est fou.
Non mais vous marquez jamais et là vous en mettez 2 quoi.
Ouais jamais, même aux entraînements.
Mais c'est vrai.
Non mais c'est vrai, non mais sérieux.
Et on peut dire la vérité?
On peut dire la vérité, quelle vérité?
Bah vous vous sentiez un tout petit peu fautif sur le but croate?
Ouais mais c'est pas...
Ah j'ai
c'est
pas compris moi, c'est quoi le sentir fautif?
Parce qu'en fait, c'est les Croates qui ont ouvert le score.
Le premier but c'est Suker, je suis le dernier défenseur qui couvre Suker et qui marque. Mais en fait, c'est pas ça qui me fait...
Ça a joué forcément.
Culpabilité de se dire, ah, j'en ai pris un but à cause de moi.
Non,
mais j'y étais, j'aurais peut-être pu...
Mais en fait, c'est à la mi-temps du match, je crois, ou en rentrant en deuxième mi-temps. À l'époque, il y avait Mario Stanić qui jouait dans l'équipe croate. Et Mario Stanić, voilà, c'est un de mes coéquipiers à Parme, en Italie. Et lui m'avait dit, ce match est pour nous. Et en fait, quand... On a pris le premier but. J'ai eu cette phrase qui m'est revenue en disant ce match c'est pas pour toi, c'est pour nous. Parce qu'en fait, c'est là que je me suis dit non, c'est pas possible, ça peut pas nous échapper.
De l'importance du mental qui doit être
voilà.
Supérieur.
Et donc, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a pris ma place et qui a marqué des buts.
C'est pas vous, hein.
Non, 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 parce qu'en fait, j'ai essayé de faire en sorte qu'il revienne, il est jamais revenu.
Vous l'avez convoqué.
Mais non, parce que effectivement, vous marquez deux buts, vous vous dites ça y est, je sais marquer des buts, je vais recommencer.
Nouvelle carrière.
Pas du tout.
Non, pas du tout.
Pas du tout. Non. C'est bien, c'est raconté comme ça, c'est encore plus fort. Mais en tout cas, deux buts pour l'éternité qui permettent à la France d'être qualifiée. Pour l'anecdote, si la France est première de son groupe et la Croatie du sien, on peut les retrouver encore une fois là en Russie. Ouais, on peut retomber dessus.
Bah super.
C'est chaud. C'est
chaud. Vous êtes prêts, Milan?
Ouais, il y retourne, il y retourne. Ils reviennent, Synapson. Tessa B et Synapson n'ont pas voulu venir, mais Synapson et Tessa B sont là pour une reprise de Radiohead et de Creep. quelle colonne d'air. J'ai rarement vu une aussi belle colonne.
Ça, c'est vrai.
Très belle colonne d'air. Synapson avec cette reprise Creep, cadeau pour la bande originale. Ils reviennent tout à l'heure avec un nouvel extrait de leur album. Album qui ne sortira que le 22 juin prochain. Et on est ravis de les avoir avant tout le monde dans cette émission. Tanguy, bonjour.
Bonjour.
On en parlait tout à l'heure. Il y a très peu de héros comme Mamoudou Gassama.
Oui, en 2015, un autre sans-papier a sauvé deux enfants d'un incendie. Tous les trois ans, il y en a un, soit 400 fois plus souvent qu'un Français qui cartonne à Roland-Garros. Seul souci, cet homme en 2015 n'a pas été filmé. Il n'a même pas fait un boomerang sur Insta, ok. Du coup, il n'intéresse personne et ses papiers, c'est toujours pas fait.
On en parle après les infos de Bi. Bienvenue avec Leïla Kadour-Boudadi.
Bonjour à tous.
Tanguy Bassureau.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour.
Albert Algou.
Bonjour.
Guillaume Auguiz.
Bonjour.
En live tout à l'heure, Synapson et notre invité Lilian Thuram.
Bravo. Bravo.
Lilian, je voudrais que nous parlions de la fondation que vous avez montée, c'était il y a une dizaine d'années, c'est ça?
Ouais, exactement.
Fondation contre le, éducation contre le racisme. Cette bande dessinée fait totalement partie, et totalement dans ce, dans cette ligne droite de ce que vous voulez faire et poursuivre comme combat.
Oui, exactement. Depuis une dizaine d'années, j'essaie de déconstruire les mécanismes de domination qui existent dans la société, que ce soit le sexisme, l'homophobie, le racisme qui serait lié à la couleur de peau. Et expliquer que c'est pas quelque chose de naturel, c'est en fait, ce sont des habitudes que nous prenons de génération en génération, qu'on se reproduit sans se poser des questions.
C'est la mission maintenant que vous êtes donnée, c'est-à-dire que vous vous dites, voilà, j'ai... Non mais c'est vrai, j'ai un rôle, certains ont choisi d'être consultants, d'autres ont choisi d'être qui entraîneur, qui sélectionneur, pour parler de Didier Deschamps et de Zinedine Zidane. Vous, vous avez pris volontairement du recul par rapport au monde du football et plutôt vous intéresser à notre société?
Ouais, effectivement, je dirais pas que c'est une mission. J'ai eu la chance d'avoir été joueur de foot, d'avoir gagné la Coupe du Monde, donc cette notoriété me permet de questionner...
Et le championnat en 2002 d'Europe aussi. En 2000, d'Europe.
Oui, c'est vrai. Ouais. Et ça me permet justement de questionner peut-être plus facilement les enfants et l'opinion publique, c'est-à-dire emmener des vrais questionnements, parce que très souvent... les personnes qui ne sont pas discriminées, parfois, n'ont pas conscience, en fait, de ces discriminations. Et parfois, eux-mêmes ne se rendent pas compte que eux-mêmes, dans leur façon de penser ou de se comporter, produisent de la discrimination.
Est-ce que les enfants vous connaissent toujours? Je pose cette question-là à dessein parce que là, on a annoncé la fin des Guignols de l'Info et Namim disait, voilà, son fils lui a dit, ça te dit quelque chose, les Guignols de l'Info? Et là, on prend un vrai coup de vieux tout d'un coup et je me demande si 98, c'est encore, c'est possiblement dans la
tête
des jeunes gens.
Il faut préciser même que Kylian Mbappé n'était pas né en 98. Donc, il n'a pas vu la Coupe du Monde de football. Il peut voir des DVD et des rediffs, mais
c'est
il n'a pas
ça,
vu.
Ça fait
calme,
un petit coup de vieux, là. Ouais.
Des choses,
en fait.
C'est vrai que très souvent, je vais dans les écoles, les enfants, ils me connaissent pas.
Ouais.
D'ailleurs, c'était très marrant parce que j'ai fait une exposition avec eux pendant 45 minutes. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit, mais en fait, Monsieur Thuram, il arrive quand?
C'est génial.
C'était drôle. Ouais, c'est drôle.
Et si vous allez chez un concessionnaire Opel, ils vous reconnaissent ou pas?
Ben, je sais pas.
Ok. Non, c'était pas pour... C'est la pub, elle était pas pour... Je me souviens plus. Non, mais la pub qui avait repris votre célèbre geste après le but.
Je m'en souviens pas.
Oh, c'était quelle marque? C'est une marque de bagnole. Je crois que c'était Opel, mais ma vanne tombe à l'eau si c'est pas Opel.
Non, moi j'ai trouvé ça très drôle.
Ouais, c'est ça. Salaud. Maintenant, vous allez pouvoir vous amuser. Voici Tanguy Passion.
Ah, Tanguy.
Tanguy, la semaine dernière, on a vu Mamoudou Gassama partout.
Oui, au prétexte qu'il avait sauvé un enfant qui maintenant va sans doute pourrir la tranquillité d'un wagon IDZ en beuglant, c'est malin. Bon, on l'a vu sur BFM, LCI, dans TPMP, Quotidien, il a juste refusé « On n'est pas couché » parce qu'il avait peur de croiser Christine Angot. Les passeurs, la traversée de la Méditerranée à 150 sur un rafio, la Libye, le centre de rétention, ça va, mais Christine Angot, des amis lui ont dit « Mec, n'y va pas, elle a le mental à la fois d'Attila, de Martine Aubry et de Rintintin quand on lui tire sur la queue. » yeux. Elle va être brisée. On raconte qu'elle est capable de dératiser une pièce juste en regardant les rats dans les yeux. Effrayé, il a dit, je vais donc pratiquer une activité moins dangereuse comme dompter un lion affamé déguisé en côtelette. Puis il est retourné dans l'anonymat. Or, l'anonymat, c'est dangereux parce que tant que vous êtes dans la lumière, Macron vous reçoit. La presse vous fait votre titre de séjour en 3 minutes, là où normalement il faut 24 ans. Vous recevez des messages de texte disant, j'ai oublié mon coussin péteur fétiche dans mon bureau de France 2 au 7e étage. Peux-tu grimper le récupérer contre un recueil de 1000 blagues de Huck? Mais une fois sorti de la lumière, les mecs vous oublient. Exemple en 2015, Emen, un Tunisien de 25 ans sans papier, se balade avec deux potes à Fos dans le 95. Il leur demande qu'est-ce qu'on fait, mais à Fos, il n'y a rien à faire à part attendre la mort en sniffant de la colle. Quand soudain, ils entendent une dame hurler « Au secours, mes enfants !» depuis une maison en feu, comme l'est le pubis de Christophe Castaner quand il entend parler de Macron. Là, 90% des gens crieraient « T'inquiète, j'appelle le 15, enfin le 17 ou le 16, oh, je connais plus le numéro des pompiers, c'est idiot, le trou, tant pis, au revoir !» Mais Emen et ses amis foncent dans la maison, montent à l'étage, sauvent les deux gosses et s'en vont. La dame doit lancer un appel pour les retrouver. Moi, si je passe l'aspi, je reste à attendre que ma femme me dise « Purée bébé, t'es exceptionnel, c'est énorme ce que t'as fait !» Eux sauvent deux enfants, ils se barrent. Donc on les retrouve, le maire les décore pour acte de bravoure. Vous retrouvez un chat perdu, en général le maître du chat vous file 500 euros. Vous sauvez un enfant, un élu local vous sert juste un kirpèche. Un mois en cas d'incendie, je ne réagis que si j'entends un énorme miaulement venant de la baraque.
On peut imaginer que ce héros Emen, finalement eu ses papiers.
Eh bien non, le préfet du Val-d'Oise a retoqué le dossier, il n'a pas retenu l'acte de bravoure. Il s'est dit, ouais, tirer deux gamins des flammes, c'est normal. Hein, donc je pense que le préfet du Val-d'Oise, c'est Jack Bauer. Juste avant, il a sauvé LA d'une attaque terroriste syrienne et passé par le Japon tuer les fils de Godzilla avant de regagner son bureau et décider que pour être régularisé, il faudra minimum désamorcer une bombe nucléaire posée place de la Concorde par Marcel Campion, furieux qu'on l'oblige à démonter sa grande roue qui gâchait toute la perspective sur les embouteillages. C'est-à-dire que le gonze sauve des enfants, mais comme ça n'a pas été filmé parce que ce conte jeune n'a même pas pensé à faire un Facebook live au cœur des flammes, Nabila et Thomas effondrés doivent se dire il est sot 2013. Eh ben, tous les scribouillards du coin remettent son dossier en dessous de la pile, alors que c'est un héros, comme Mamoudou Gassama. Clairement. Mais si on donne les papiers juste à ceux qui se font filmer, je dis aux sans-papiers qui nous écoutent, les gars, faites un petit Jackie et Michel. Vous êtes filmés. Si Corinne, dites la coquine de Dijon, fait un arrêt en plein trio, vous la sauvez en pratiquant un massage cardiaque, après avoir mis un slip afin qu'on comprenne que ça ne fait pas partie du film, et le préfet pourra pas dire que vous n'avez rien fait. Il y a donc deux types de héros, les hyper médiatisés dont on fait un symbole et ceux qui n'ont même pas un selfie de leur exploit, ces losers, à qui on dit de dégager parce que le gars là a une obligation de quitter le territoire. Lui n'a pas été reçu à l'Elysée, on l'a pas vu sur BFM, il végète dans l'anonymat avec Jean-Vincent Placé et Pierre Cosso. Son histoire ne devait servir ni le pouvoir politique ni le pouvoir médiatique, pas de bol. Donc la préfecture du 95 a promis de réexaminer le dossier, bah voilà. Oh, c'est trop gentil de leur part, dès que monsieur le préfet, qui doit minimum être Bruce Willis, aura jugé que sauver des enfants d'un incendie, ça mérite un kirpèche, mais pas que.
Merci Tanguy Pastureau. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Ça rentre dans la tête, hein, ça, Lilian, hein. Je vous vois.
Non, c'est très beau.
Vous aimez danser?
J'adore.
Ouais, ça s'est vu, là, vous avez commencé à avoir le déhanchement. D'abord l'ennemi. Hideaway, c'est le premier extrait de cet album qui ne sortira, encore une fois, je le rappelle, que le 22 juin prochain. Sur l'album, il y a aussi The Meetup. Et un titre en français avec Team Dup.
Ce qu'on veut, c'est des levées de soleil, couleur jus de fraise au fond d'une assiette blanche, des couchers de lune et des jolies paires de fesses qui se déhanchent. C'est se draper dans le bleu, le mauve, de l'aube ou de l'aurore. C'est rugir face au vent, étreindre nos corps avant d'atteindre la mort. Ce qu'on veut, c'est des musiques inoubliables et des cantiques gospel. Des chœurs en milliers et à l'unisson, des lubies, des étincelles.
Et ce titre, Sex You Up. I'm gonna sex you up. Wow, drinking my cup. On a du mal à ne pas bouger quand on entend ce genre de musique.
C'est un album qui donne envie de prendre de la drogue.
Mais non,
c'est pour n'importe quoi.
Bien sûr. Mais c'est, mais tu fais tes mal.
Et avoir un petit peu de drogue pour accompagner un bon album.
Pour accompagner.
C'est n'importe quoi.
Bah, c'est ce que vous m'avez dit à la pause.
Synapson avec la voix de Lass. Maintenant, ça s'appelle Souba et c'est sur l'album à venir le 22 juin, mais en live maintenant dans la bande.
Jambaroi, yaufone nanga gorgoloi, sawajei, yaufone nanga gorgoloi. Sumai daktei lolululerla. Subai dak tei lo lu lu wola. Nyafela, bir mi mane nyafela. Gis nga yow, lu la wan moy nyafela. Nanga jog, si si tangel ben.
Chacun sa colonne d'air.
Bah forcément.
Ben voilà. Souba, ça veut dire. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien. On avait dit que dans ma loge avec l'argent comme prévu. Et là, je suis très gêné, mais il m'offre des cadeaux. Souba, ça veut dire demain, on est d'accord?
Exactement. Nagui, vous pouvez lâcher le monsieur, s'il vous plaît.
Je vais le remercier. Je vais le remercier. C'est un hymne à l'espoir, ne jamais se laisser submerger par les problèmes et les pensées négatives. Demain sera forcément meilleur.
Ouais, pas
chanté
toujours, hein.
Par Lass et des cadeaux. Donc de casquettes et de blousons Synapson. Merci beaucoup les garçons et les filles. Merci beaucoup. Bonne tournée.
Bravo.
Merci. Bravo.
avec Nagui.
Voici la colonne d'air de Daniel Morin.
Très jolie colonne d'air.
Attention, elle arrive.
Sacrée colonne. Hein. Il se l'est tapé. Hein.
Là, je peux vous dire, c'est pas trop tôt. Et nom de Dieu, ça fait du bien. Enfin, une bonne nouvelle.
Quoi
une
encore
bonne nouvelle qui redonne un élan d'espoir à la France. Il faut le dire. Elle en a besoin, mais oui, le contexte économique est maussade, il pleut tout le temps, Canal Plus arrête les guignols, le moral est au plus bas, mais depuis ce week-end, on sent comme un renouveau. Oui, les Français relèvent la tête, les Français le sentent, il se passe quelque chose de prometteur et d'excitant à la fois, enfin une promesse solide qui redonne le sourire à tout un peuple. Oui, cette fois, on y croit. Plus rien ne sera comme avant. Tout le monde est derrière le Rassemblement National de Marine Le Pen. Alors oui, j'entends d'ici les esprits chagrins qui disent « Ah ben, ça ressemble un peu au Front National, cette histoire, quand même. » Mais non, ça n'a rien à voir, enfin. Là, c'est rassembleur. Là, c'est ouvert. Là, c'est main dans la main. Oui. Dans la même direction. Enfin, merde, j'en veux pour preuve la présence de Lilian Thuram qui est venu nous annoncer qu'il est devenu membre ce week-end. Évidemment, il est venu pour ça. Arrêtez de rire, monsieur Guy. Je sais que vous êtes amer car vous avez été refusé au Rassemblement National. Vous avez été jugé bien trop à droite pour le parti de Marine Le Pen. Rassemblement National, on a tellement envie de faire partie de l'aventure. Tu es blanc et pauvre, la France te dégoûte. En rejoignant le Rassemblement National, ta vie va changer. La préférence nationale te donnera un logement, un travail pas payé et du personnel de service pour entretenir la maison. Tu es noir et pauvre, la France te dégoûte. En rejoignant le Rassemblement National, ta vie va changer. La préférence nationale ne te donnera pas de logement, encore moins un travail. Tu auras la chance de devenir personnel de service chez un patron blanc. Tu ne seras pas payé, mais tu le mériterais. Tu es un blanc et tu es riche. La politique économique de la France te dégoûte. En rejoignant le Rassemblement National, ta vie va changer. La préférence nationale va mettre à ton service des blancs pauvres et tu ne seras pas obligé de les payer. Rassemblement National, tout le monde est gagnant, tout le monde est bienvenu. Peu importe d'où vous venez. Venez comme vous êtes, moi j'y crois. À demain.
Merci Daniel. Vous faites partie de la fondation également du Barça, parce que vous intervenez. Expliquez-nous un peu le principe de ces fondations. C'est justement de tout faire pour tendre la main vers ceux qui ont le moins de chance.
Ben effectivement, c'est passer par le biais du football pour essayer de changer la société. Dernièrement, je suis allé au Liban avec la fondation du FC Barcelone.
On rappelle, Lilian Thuram, que vous avez joué là-bas.
Oui, à Barcelone pendant 2 ans. Et nous sommes allés voir des camps de réfugiés où effectivement les enfants sont accueillis, qui ont des entraîneurs. Et en fait, ces entraîneurs sont éduqués par le staff de Barcelone. Et c'était très intéressant de voir justement la puissance du football, en fait, parce que les enfants vivent des choses dramatiques et autour du ballon, les choses changent. Et l'idée, c'est emmener des sourires et emmener du jeu, peut-être un peu de liberté, en fait.
Chaque grand club, comme ça, sa fondation cherche à... si c'est pour racheter quelque chose, une image, bah, tant mieux, si au bout du compte des enfants ou des personnes malades en profitent. Mais que ce soit le Real, le Barça, le PSG, Arsenal, Manchester, enfin, ils ont tous comme ça des fondations pour aider les enfants.
Mais en fait, oui, c'est vrai, c'est beaucoup d'actualité. C'est vrai qu'effectivement, il y a un mouvement peut-être oblige les clubs à se poser des questions, à savoir qu'est-ce qu'on fait nous pour la société. Et effectivement, il ne faut pas être aussi naïf, c'est pour aussi l'image des clubs. Mais je trouve que c'est intéressant.
Mais tant mieux, ouais.
Bien sûr, parce que sincèrement,
du compte, il y a quand même des actions.
Ah ouais. Oui, un peu partout dans le monde, notamment Barcelone. En fait, le slogan de Barcelone, c'est « Mais qu'un club », ça veut dire « plus qu'un club ». Et effectivement, voir tous ces enfants, toutes ces familles aussi... parce qu'en fait, il y a une reconnaissance, c'est assez incroyable, parce que lorsque vous êtes, par exemple, syrien, que vous avez des difficultés dans la vie, vous êtes obligé de partir pour vivre au Liban, en fait, les enfants perdent une certaine estime d'eux-mêmes. Et voir venir des joueurs, anciens joueurs, voir qu'un club comme Barcelone s'intéresse à vos problématiques, et ben vous grandissez plus facilement.
Ça s'appelle Tous Super-Héros, la bande dessinée portée par Lilian Thuram, Jean-Christophe Camus et Benjamin Chaud, la Coupe de tout le monde chez Delcourt. À propos de Coupe du Monde, vous voyez la France championne 2018?
Ben je l'espère. Je l'espère parce que bon,
ça viendrait pas vous, ça viendrait pas vous mettre dans l'ombre, ça, si la France gagne.
Côté positif de Nagui toujours.
Bon, ça, c'est bon, j'espère sincèrement que l'équipe de France va gagner. Moi, je crois au symbole.
Ça vous
20 ans ouais, okay. Après.
Non, mais vous espérez. Est-ce qu'elle en a les capacités?
Oui, voilà.
Est-ce qu'elle... Bah, disons qu'il y a des équipes qui sont peut-être plus équilibrées, notamment le Brésil, l'Espagne, l'Allemagne, parce qu'en fait, il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup plus d'expérience, parce qu'à ce niveau-là, ça compte aussi. Mais l'équipe de France a des très très bons joueurs. Une très bonne équipe, donc j'espère que ça passera. De toute façon, vous êtes, lorsque vous êtes dans un tournoi, il y a aussi les dynamiques qui se mettent en place. Donc j'espère que les choses se dérouleront.
Ce qu'il faut rappeler est arrivé en 98. Au début, tout le monde criait que cette équipe était un peu faite de briques et de brocs. Et en fait, Aimé Jacquet a réussi.
Non, mais à l'époque, il y avait des très grands joueurs avec beaucoup d'expérience. Lorsque vous regardez, par exemple, notre équipe de France... Ouais. Et ben beaucoup de joueurs sont des leaders dans leur club, et donc c'est pour ça que je parle d'expérience. Et peut-être qu'aujourd'hui dans l'équipe de France,
ça manque de tauliers.
Non, ouais, qui est des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Et après, il y a une autre chose qui quand même qui fait la différence, c'est qu'on a joué en France quand même.
Et oui, alors on joue à domicile.
Ah là, on a joué à domicile, ouais. Donc.
Et vous irez
ça
là-bas?
N'a rien à voir.
Vous irez voir des matchs là-bas ou pas?
Non, pas du tout.
Pas jusque-là.
Ah non.
C'est là où nos chemins se séparent. des excuses à présenter, Daniel.
Oh oui, désolé pour. Oh. Alain Finkielkraut, Éric Zemmour, bref, tous les amis de Leïla qui nous écoutent et qui ont été écœurés par l'émission de ce matin. Franchement, je vous comprends, les gars, mais je vous préviens, on fait pire demain. On reçoit carrément un étranger.
Radou
Mihailenu. Désolé pour Ernesto Guiz, notre humoriste péruvien, qui, pour s'être ouvertement moqué de Lilian Thuram, tout en bavant de désir devant la chanteuse de Synapson, risque sa vie. Ouais, Lilian me l'a confirmé tout à l'heure à la pause. Il va te casser les deux jambes. Salut l'artiste, en tout cas, on t'a jamais aimé. Désolé pour nos auditeurs férus de grande musique et qui ont été vraiment choqués qu'on invite un groupe qui ne sait pas mixer avec un musicien qui chante mal, qui mixe des pains quand il veut, qui prononce mal l'anglais, bref. Je vous préviens, ça n'arrivera jamais avec un Vincent Delerme, vivant qu'on le reçoive. Désolé pour Poutine et la grande Russie, le peuple russe aussi, qui ont été insultés par Nagui. Alors, il vient de le dire, ami Ruskov, Nagui sera dans votre pays d'ici 15 jours. Juste un petit conseil, allez-y, faites-vous plaisir.
Merci Lilian Thuram, merci pour toutes les valeurs que vous portez et le bien que vous faites en termes d'éducation et de transmission. Allez avec votre fondation et avec cette bande dessinée Tous Super Héros. C'est chez Delcourt. Bon mondial, parce que j'imagine que vous n'allez pas louper un seul match aussi, quand même. À bientôt, Lilian.
Merci à vous.
Merci. À suivre les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonjour, Philippe.
Oui, bonjour, les amis. Merci pour le cadeau vendredi. Hein.
Je t'en prie.
Le concours de Rototo, là. On était, après votre passage, on était obligé d'ouvrir les fenêtres. On était même à deux doigts d'appeler le service de déminage.
Mais c'est n'importe quoi.
Ben non, avec Yvan Bourgnon.
Ben oui, non, mais parce qu'il a fait un petit oui. Eh bien,
ah bah oui, mais.
C'était pas un concours, ça.
Ah bon.
C'était un accident
facile,
parcours.
Vous avez gagné.
Rappelez-vous. Salut les amis.
Ciao, à demain. Ciao.